l'Alilo Plickers. Ce ne sont que quelques-unes des applications utilisées dans les classes. Qui dit application, dit traces numériques d'apprentissage, ou les Learning Analytics en anglais. Toutes ces données récoltées, vous vous êtes déjà demandé ce qu'on pouvait en faire? Ce qu'on avait le droit d'en faire? Comment elles aident les enseignants? Mais aussi, comment elles pourraient influencer le regard porté sur l'élève? Pour faire le point, nous avons questionné Guillaume Bonvin, chargé d'enseignement dans le domaine de l'éducation numérique à la HEP Vaud, et aussi doctorant au TECFA à l'Université de Genève, dont l'un des axes de recherche concerne justement les Learning Analytics.
Nous nous intéressons aux Learning Analytics. Qu'est-ce que ces mots vous renvoient? Comment les définiriez-vous?
Alors, pour moi, c'est un nouveau champ de recherche, un nouveau domaine entre l'informatique, les sciences de l'éducation et les statistiques mathématiques. C'est la collecte, l'analyse et l'utilisation des données produites par des apprenants. C'est un phénomène récent qui est lié plutôt à l'émergence et la généralisation du numérique éducatif et des données massives que l'on récolte sur des plateformes d'apprentissage. L'objectif de cette collecte automatisée du traitement et de l'analyse de ces données est d'améliorer l'expérience d'apprentissage et l'apprentissage des élèves. Pour l'apprenant, c'est de lui permettre de s'orienter, de lui fournir des indicateurs sur sa situation d'apprentissage, de le rendre pleinement conscient de ses activités d'apprentissage, mais également de ses forces et ses faiblesses. Après, tout dépend des plateformes qui sont utilisées et de l'âge des élèves ou des étudiants. Pour l'enseignant, c'est de mieux suivre les activités de ses apprenants à l'aide d'indicateurs pour opérer des remédiations. Dans ce cas, on peut parler de tableau de bord pour visualiser les activités des élèves. Enfin, c'est la forme généralement prise par les plateformes. La finalité, elle est multiple, c'est de multiples finalités. D'abord, comprendre les usages et les pratiques dans des contextes d'apprentissage. Concevoir des modèles théoriques et des modèles comportementaux. Là, on est plutôt dans l'apprentissage prédictif, c'est-à-dire extraire des données et leur utilisation pour prévoir des tendances et des modèles de comportement. Par exemple, le décrochage scolaire. Et puis finalement, c'est améliorer l'efficacité de dispositifs et personnaliser les apprentissages pour mieux accompagner les apprenants. Concrètement, quel type de données sont collectées? Cela va dépendre du type de plateforme que l'on utilise. Un LMS comme Moodle, utilisé au secondaire 1, 2 et le tertiaire, va permettre d'avoir un rapport sur le cours en lui-même et la fréquentation du cours, les ressources utilisées, si elles sont téléchargées ou visualisées. Par exemple, 1000 étudiants qui ont vu une fois une ressource n'a pas le même impact que 100 étudiants qui l'ont vu 10 fois. Dans le second cas, on va comprendre que la ressource est très utile et sert de référence aux étudiants. Ces éléments vont permettre à l'enseignant d'améliorer la formation. Maintenant, on peut avoir un rapport après plus fin sur l'étudiant lui-même et regarder comment l'étudiant se déplace sur un cours Moodle, qu'est-ce qu'il regarde, combien de temps il passe par activité. Il ne faut pas perdre l'objectif de vue, c'est d'aider l'apprenant et de mettre en relation l'activité d'apprentissage et les résultats obtenus dans un quiz, un test en ligne, mais aussi à l'évaluation qui se fait en classe, par exemple.
Au niveau des données que reçoit l'enseignant, est-ce que c'est plutôt des données brutes ou c'est des données qui sont déjà traitées par les systèmes? J'imagine que c'est selon l'application qui est utilisée, mais c'est vrai que nous, on s'oriente plutôt donc toujours sur l'école obligatoire, donc avec l'Alilo, Classcraft, ce genre de support.
On va dire que les données sont déjà pas analysées, mais la visibilisation des données est faite en sorte qu'elles soient comprises par l'enseignant ou les élèves. Alors dans des buts bien précis qui dépendent du type de plateforme utilisée. Sous Moodle, on a accès à de nombreuses données sous la forme de statistiques. Elles sont légèrement mises en forme. Dans Classcraft, on va voir l'évolution schématisée d'un élève. On va voir des courbes qui vont représenter, par exemple, des activités de collaboration en ligne, mais aussi des perturbations de la classe, et puis ça va donner aussi un indicateur par rapport à l'ambiance de classe. Donc, c'est tous des éléments où la visualisation est mise en avant pour simplifier le travail de l'enseignant. Il y a vraiment une volonté de ne pas donner des données brutes, mais d'aider l'enseignant à avoir des tendances par rapport à la classe, à un groupe, voire à l'élève.
Et est-ce qu'il y a des biais d'interprétation qui sont possibles ?
On part du principe que pour l'enseignant qui analyse un parcours spécifique d'un étudiant et qui n'a pas connaissance de son contexte, c'est beaucoup plus difficile de tirer des conclusions. Une plateforme comme Moodle va nous permettre de savoir combien de temps un étudiant a passé sur un exercice, sur une activité en ligne, mais concrètement, on ne peut pas savoir ce qu'il fait. Peut-être qu'il a passé 2 heures, mais sur ces 2 heures qu'il était en ligne, sur l'exercice en question, 1 heure et demie, il n'était pas vraiment devant son ordinateur, il a fait une pause, il est parti, l'exercice est resté ouvert. Ça va nous donner tout de suite un biais par rapport à l'analyse que l'on peut faire de l'activité qui a été faite par l'étudiant. Donc, les biais sont plus importants, on va dire, dans des dispositifs où l'entier du dispositif est en ligne et l'enseignant ne connaît pas ses étudiants. Par contre, dans l'école obligatoire ou secondaire, l'enseignant connaît ses élèves. Il peut enlever certains biais parce qu'il peut faire la pondération entre les données qui sont données par la plateforme et ce qu'il connaît du contexte de l'élève en question. L'important, ce n'est pas ce qu'on récolte, c'est ce qu'on en fait. Enfin, ça, c'est peut-être un avis qui est plus personnel, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces données? Si ces données, elles sont utilisées dans le but d'améliorer l'apprentissage et au final de faire en sorte qu'un élève apprenne mieux et puis puisse se construire un avenir cohérent, c'est gagné. Par contre, et là, on arrive dans des limites du learning analytique, si on fait trop de différenciation, parce que c'est là le point central, c'est de dire on fait de la différenciation pédagogique qui va se transformer en discrimination au bout d'un moment, par des biais, par l'agglomération de données qui vont faire en sorte qu'on perd le sens de ce qu'on est en train de faire, et bien là, il y a un danger.
Donc en fait, l'enseignant doit sortir de cette notion de jugement et pas rentrer dans une typification de l'apprenant.
En tout cas, pour l'école obligatoire, enfin, quand il y en a... On va prendre le point de vue de l'enseignant. Le learning analytics n'est pas, malgré que ça soit des maths, des stats, ce n'est pas une science exacte. On peut en tirer des tendances, on peut effectivement focaliser sur un élève et se poser des questions. Mais pour l'enseignant, c'est une aide à se poser des questions par rapport à un comportement, à une manière d'apprendre, à un style d'apprentissage qui doit donner quelques informations à l'enseignant, mais ne doit pas prendre le pas sur les décisions que l'enseignant doit faire au niveau pédagogique pour favoriser l'apprentissage d'un élève. C'est vraiment une aide et tous les tableaux de bord qui sont construits pour les différentes plateformes sont là pour donner des indications à l'enseignant, lui donner peut-être des points d'alerte par rapport à un décrochage ou autre, mais la décision pédagogique se fait par l'enseignant et elle doit être pondérée par la visualisation, le contexte, par le fait que l'enseignant connaît personnellement son élève. On ne peut pas commencer à dire « Ah, on va... » traiter toutes les données qu'on a récoltées, puis dire, ben voilà, ces élèves-là, ils sont dans tel profil, et finalement, on va, grâce à ces données, uniquement décider d'un parcours de formation sur le fait qu'on n'ait que des profils. On doit mettre en relation les données récoltées humaines, on va dire, la relation humaine de l'enseignant vis-à-vis de ses élèves.
Au niveau donc des Learning Analytics, il y a un cadre légal qui est le LPD et le LPRD. Quels sont les avantages et les limites de ce cadre légal au niveau du profilage et de l'éthique ?
Il faut faire la différence entre les outils mis à disposition par l'autorité, l'institution, dans le but administratif et pédagogique ou des outils didactiques choisis pour l'enseignement par l'enseignant. Dans le premier cas, la décision ne vous appartient pas et on se repose sur l'institution qui a fait un choix après concertation selon certains critères guidés par le cadre légal. Dans le cas de Teams, c'est un outil choisi par différents cantons. Ce choix a été guidé par un accord cadre sur le plan fédéral. Educa a signé un contrat avec Microsoft et a obtenu des garanties sur le stockage et l'usage des données. Cela permet à l'institution de fournir à chaque enseignant et élève une adresse e-mail et un accès à la plateforme et aux différents outils de communication, où l'enseignant peut dialoguer avec ses élèves, transmettre des documents et des devoirs. Dès qu'il y a plateforme d'enseignement, il y a traces, et là, spécifiquement des traces qu'on va dire d'apprentissage. Dans le deuxième cas, c'est aussi le recours à des plateformes d'enseignement. C'est l'enseignant qui choisit une plateforme dans un but didactique précis. C'est donc à l'enseignant de faire ce travail de vérification de comment les données fournies à la plateforme sont utilisées.
En pratique, comment est-ce qu'on peut utiliser les outils numériques en respectant les données personnelles et sensibles et du coup éviter le profilage des élèves?
Alors, sur les plateformes officielles, là, il y a toute une réglementation qui est mise en place par les départements, donc il faut suivre les réglementations. Par contre, sur les plateformes tierces, qui ne sont pas officiellement reconnues, il y a des directives qui sont également émises par les départements pour anonymiser la création des comptes pour les élèves. L'objectif est de faire en sorte qu'on ne puisse pas remonter à l'élève. Donc, il est évident qu'il faut privilégier un pseudo, hein, ou alors ne mettre que le prénom, mais surtout pas mettre le nom, ni la classe, le lieu, ces choses-là, pas d'adresse physique, pas de photo, enfin, c'est des règles de base pour rendre le plus anonyme possible. Après, ça permet à l'enseignant d'utiliser les fonctionnalités de suivi des élèves, parce que l'enseignant sait que le pseudo correspond à tel élève de sa classe et de pouvoir tirer profit du Learning Analytics d'une plateforme tierce. Si on prend par exemple Learning Apps, hein, cette petite plateforme qui permet de créer sa classe et de créer des exercices pour ses élèves, ben, elle a compris puisqu'elle propose directement de créer pseudo et mot de passe sans entrée d'adresse email et finalement sans entrée de données personnelles des élèves dans la plateforme. Et ça permet à l'enseignant de distribuer identifiant et mot de passe aux élèves qui peuvent se connecter, faire les exercices, et ça permet à l'enseignant d'avoir un suivi sur les activités d'apprentissage et de récupérer les évaluations des exercices qui sont réalisés en ligne. C'est la même chose pour Plickers en classe. Ça permet directement de visualiser les élèves qui auraient plus de difficultés que d'autres. Et toujours avec ce même principe, on utilise des pseudos pour enregistrer sur la plateforme. Je l'ai dit, pour la plateforme officielle, on parlait tout à l'heure de Teams, c'est différent puisque les élèves ont leur identifiant et leur adresse email pour se connecter qui a été créée par le canton.
Dans la récolte des données, il y a quand même une notion financière par rapport aux différents logiciels qui sont utilisés. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que ces données ne soient pas utilisées de cette manière ?
On a la chance d'être une île au milieu de l'Europe. Et l'Europe s'est occupée de faire une loi, la RGPD, très contraignante par rapport à l'usage des données des plateformes web en général, et qui s'applique évidemment aux plateformes d'enseignement. Et cette loi décrit que les plateformes peuvent traiter des données, enregistrer des données sur leur utilisateur, mais dans des buts très précis, et doivent décrire scrupuleusement ce qu'elles font des données. Elles peuvent commercialiser, mais elles doivent avertir de la commercialisation qui est faite des données et de quel usage sont faites ces données. Donc, on va dire que pour se prémunir d'un usage abusif, il faut lire les règlements, les conditions d'utilisation des différentes plateformes. Alors, il y a certains labels qui existent, voire des labels éducation, mais ça n'empêche pas qu'il faut aller les lire jusqu'à présent. Alors, depuis que cette loi en 2018 a été mise en place par l'Union européenne, ça a fait effet boule de neige, parce qu'on pourrait se dire « Ah, mais les entreprises américaines, eux, ne sont pas sur territoire européen, mais comme ils font du commerce avec l'Europe, eh ben, elles se sont mises à jour. » Et si on va voir un site, par exemple, comme Classcraft, on voit qu'ils ont trois lois qui régissent leur utilisation des données, la loi RGPD, mais aussi la propre loi américaine sur l'usage des données pour les enfants, et puis finalement une loi canadienne. Et si on fait le total de ces lois, ben on voit qu'ils ont décrit tout ce qu'ils faisaient avec leurs données et ils s'engagent à ne pas commercialiser les données des enseignants et des élèves. Il y a un enjeu pour les sites, les plateformes pédagogiques, c'est la sécurité des données. Ils ne peuvent pas se permettre de vendre ces données et de faire en sorte que, typiquement, une donnée, ce serait un adresse email des élèves, tout d'un coup, les élèves soient spammés parce qu'ils ont vendu les adresses email par de la publicité. Ils ne peuvent pas se permettre parce que le dégât d'image serait total, que la plateforme ne serait pas pérenne. Il y a un enjeu là autour et je pense que ça a été bien compris.
Finalement, les Learning Analytics, c'est utile dans l'enseignement obligatoire?
Alors, je dirais que ça va devenir utile. Mais pas dans une généralisation, dans une spécification de certains points précis. C'est-à-dire comme on le fait avec la Lilo. C'est qu'on a une plateforme dédiée pour faire quelque chose de précis. Et la chose de précis, c'est d'évaluer la lecture, ou d'évaluer les mathématiques, ou d'évaluer quelque chose pour faire une remédiation. Et ça prend tout son sens quand c'est vraiment dans le but d'améliorer l'expérience d'apprentissage des élèves. Il faut vraiment pointer les avantages et en tirer parti pour l'enseignement. Et je pense que ça passe par des objectifs très spécifiques. Pour justement éviter de faire des profils qu'on pourra toujours faire, mais on est dans l'école obligatoire et puis on n'est pas à profiler et faire des groupes très vastes. On a toujours des unités qui s'appellent la classe et puis des enseignants qui sont devant une classe d'une vingtaine d'élèves et qui ont un lien particulier avec l'enseignant. Et ça, il ne faut pas oublier. C'est des indicateurs, mais c'est l'enseignant qui donne cours, c'est l'enseignant qui fait la pédagogie et c'est l'enseignant qui décide.